il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, pamputello e sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
Marcello, sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che bimbrindina che ce l'ho? Marcello, son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti alla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Rabagliati e vesto con quel certo non so che, ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello.
Marcello
di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcello,
se a mezza voce canterello qualche sciocco ritorniello, cantano tutti solo quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello. Perché son bello, sono il bello di mamma.
Bonsoir, come vous avez entendu par le jingle, on est sur Nino Domani a Palermo, avec moi, moi-même Simone Cilluffo, ou Cilluffo, come vous préférez, moi je préfère Cilluffo, on est, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Belkacem Tir pour les amis Cadiz et Madame Dominique Sicilia ou Sicilia. Et pourquoi ils sont avec nous? Parce que ça fait des semaines que j'ai vu un très beau spectacle dirigé par Dominique et interprété par Cadi, qui c'était au théâtre L'Espace Culturel La Busserine, dans le quartier de La Busserine, le quartier nord de Marseille. Et c'est un spectacle, selon moi, de très haut niveau pour l'interprétation de la Terre, qui est vraiment très puissante. Et j'ai eu vraiment l'impression que c'était une immersion totale dans le personnage. Je vais commencer par poser une question à Cadi, avant qu'il nous parle de son parcours. Je te fais une question un peu insolite, on ne commence pas par cette question, quand on se connaît.
Allez, vas-y.
Quel âge tu as, Cadi?
Oh là là, quel âge j'ai J'ai 59 ans.
Alors, je t'explique pourquoi je te pose cette question.
Mais dis-moi.
Je te pose cette question parce que je suis un étranger, je suis arrivé à Marseille en 2013 et en voyant ce spectacle, j'ai eu l'impression qu'il y avait un réalisme tellement réel qu'il me semblait irréel. Parce que je dis ça, parce que je ne connaissais pas cette situation de discrimination, de ghettoisation, si je ne me trompe pas. Et dans une ville comme Marseille, c'est une discrimination qui a eu lieu post-guerre d'Algérie. Donc, Cadi, peux-tu nous parler de cette réalité?
Oui, bien sûr. Moi, je suis né en France dans les années 60. Et j'ai vécu la France de l'après-guerre d'Algérie.
Donc, par exemple, moi, hier, j'ai parlé avec Manu Taron qui m'a expliqué que la guerre d'Algérie, ça a affecté beaucoup plus les Français que les Algériens d'Algérie.
Mais oui, parce que les Algériens d'Algérie, ils n'ont pas souffert comme nous. On était ici en France, donc on a beaucoup plus. C'est nous qui avons subi tout le racisme, toute la haine. Ben voilà, c'est nous qui avons subi, on a souffert.
Et en fait, cette discrimination, cette ghettoisation, cette exclusion, c'est une chose qui... Je ne savais pas, en fait. Oui, j'avais entendu des histoires, mais après de les voir sur scène, ça me semblait... Je savais que c'est vrai, mais je connaissais pas ces choses. Et dans la par exemple, dans la pièce, tu racontes qu'à l'école, l'instituteur vous refoulait les maghrébins au fond de la classe.
Exactement, ouais. c'est ce qu'il faisait. Ouais. Parce que les instituteurs qu'on avait, nous, dans nos quartiers, c'était des pieds noirs, des rapatriés d'Algérie. Les gardiens aussi, les gardiens de la cité étaient rapatriés d'Algérie aussi.
On parle de la cité de la Busserine.
De la Busserine, exactement, oui.
Donc il y avait cette haine envers les pieds noirs, il y avait cette haine, il y avait cette...
Cette peur surtout. Cette peur qu'il y avait, qu'il y avait beaucoup d'Arabes, l'après-guerre, bon, c'était assez conflictuel, quoi.
Toujours Manu Terron m'a expliqué que dans les années 60-70, à Marseille, il avait un racisme décomplexé, on va dire, un racisme qui ne se voilait pas. Et il m'a expliqué qu'il avait des amis qui étaient maghrébins, qui étaient des personnes brillantes, qui ont fait l'école avec lui. Mais dès qu'il arrivait à 11 ans, de suite, il était envoyé vers l'école technique. Il ne pouvait pas continuer les études. Et après, beaucoup de... ils sont finis en prison. Ils sont finis parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de pouvoir progresser, on va dire. Donc, je pose... Il était mis à l'écart du système, on va dire. Je pose la question à Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Qui est la metteuse en scène. Et pourquoi tu as choisi de créer cette pièce qui n'est pas réaliste, mais vraiment hyper-réaliste? Par hyper-réalisme, j'entends un réalisme tellement cru et tellement puissant qui peut sembler presque faux, presque irréel, pour qui ne connaît pas l'histoire comme moi ou comme l'autre personne.
En fait, c'est exactement ce que je voulais exprimer, c'est montrer cette réalité. Et montrer une réalité, ça pouvait passer que par le réalisme, forcément. On a l'habitude de voir, enfin j'ai l'habitude de voir au théâtre des spectacles qui dénoncent parfois des choses qu'il faut absolument dénoncer, mais avec... On raconte pas vraiment, on utilise des allégories, des images, il faut rester léger, il faut rester poétique, on détourne, on veut faire rire même parfois pour dénoncer aussi. Et j'avais pas du tout envie de ça, j'avais envie de montrer ce réalisme cru. Je trouvais ce sujet tellement puissant, tellement prégnant. Et insupportable, qu'il fallait quand même qu'on puisse en faire une pièce et qu'on la montre aux gens, qu'on la montre telle qu'est la réalité. Et c'est ce qu'on nous retourne quelquefois quand les gens qui voient le spectacle nous retournent qu'ils sont impressionnés et même choqués. Par cette manière de montrer cette chose-là réelle dans la plus crue réalité.
Il n'y a pas d'édulcoration, il n'est pas édulcoré cette vérité.
Voilà, c'est direct, pas de distance.
En effet, dans mon expérience, j'ai pu remarquer qu'il y a des arguments qui sont des tabous. Dans cette conception, on va dire qu'on a une conception de l'État français après la Révolution française, qui est l'État qui se porte garant des droits de l'homme. Et après, on arrive à l'évidence devant les faits qui sont l'envers de ce qui prêche, on va dire, dans toutes les écoles, on voit liberté, fraternité, égalité. Mais en réalité, c'est la réalité qui vit beaucoup de personnes, on va dire au moins la moitié des Marseillais.
Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire que, en fait, pour résumer ce que tu viens de dire, comme dans l'esprit de la grandeur de la France, on ne peut pas être raciste, on ne peut pas faire de discrimination, ben, on pense que, on préfère penser que le racisme n'existe pas. Que
on le nie même.
Ouais, on le nie complètement. Et à tel point que des gens, même des amis à moi qui ont vu le spectacle, ils se disent « mais c'est pas possible ». C'est pas possible, ça n'existe pas. Ou alors ça a peut-être existé à une époque, mais ça n'existe plus. Parce que, même des personnes proches, hein, c'est tellement une honte, en fait, que la honte, on n'en parle pas, on la cache, on met un couvercle dessus. La honte, il ne faut pas en parler.
Donc on a compris que c'est un spectacle engagé, un spectacle qui a une volonté politique. Là, je vais poser une question cette fois à Kadi. Je me rapproche du metteur en scène polonais Grotowski, qui disait que les personnages sont comme une facette d'un diamant, dans le sens, le diamant a plusieurs facettes, plus grandes, plus petites, on imagine certains brillent plus, certains brillent moins. L'acteur, en tant que personne, il fait ressortir un personnage, il fait ressortir un rôle, parce qu'en tant que personne, il contient plusieurs personnages. Donc, il a la capacité de mettre en scène, de porter sulla scène un de ces personnages qu'il interprète. Et je dois dire che Branca D a bien poli cette facette du diamant, il a fait ressortir ce rôle. Avec une interprétation grandiose, parce que je pense que le rôle qu'il interprète colle un peu à ta personne. Non?
Oui, bien sûr. En fait, j'ai pas tout vécu ce que je raconte, mais le reste de l'histoire que je raconte, ça, je l'ai vécu. Et pour parler d'acteur, l'acteur doit partir de lui-même, de ce qu'il est, de sa personne à lui. Pour après développer, aller voir un peu ce qu'on peut aller avec le metteur en scène, faire un cheminement, se croiser et aboutir à quelque chose.
Donc tu as vécu cette situation de discrimination ou pas ?
J'ai vécu ce que j'ai raconté à l'école, oui, je l'ai vécu. La relation avec la police, en effet aussi, j'ai vécu ça. Et on a mélangé avec d'autres histoires auxquelles moi j'ai assisté et des histoires qu'on nous a racontées.
Donc, à la fin, c'est la grandeur de ton personnage. Tu interprètes de façon magistrale parce que tu portes c'est scène gentil. Ta personne et pas ton personnage. Ta personne a tutto tondo, on va dire, parce qu'il y a les sanglots d'un enfant, les sanglots d'un adolescent, non?
Oui, bien sûr. Oui, ben, moi, je ne travaille pas mon personnage, à part d'autres personnages autour, mais le personnage central parle de ce que je suis, moi, de ce que j'ai vécu. De mon histoire et de l'histoire de tout le quartier. C'est un récit et c'est important de garder des récits parce que on n'a pas beaucoup de récits. Je connais rien de mon histoire d'avant, de celle de mes parents. Je connais, il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Mais moi, je commence avec le récit de mon quartier, de ce que moi j'ai vécu.
Donc, c'est une volonté de témoignage, on va dire, une volonté de témoignage qui est d'une histoire personnelle, devient une histoire collective, devient l'histoire de la Busserine, devient l'histoire de la France entière.
Bien sûr, absolument.
Témoignage, c'est aussi une trace, c'est ce que tu disais
aussi.
Tout à l'heure.
Ouais, la trace,
une trace comme on n'en a pas, en fait. Des traces de cette vision de l'histoire de France vue depuis ce quartier-là.
D'accord. Donc, vous voulez faire ressortir la mémoire qui n'a pas de voix.
Exactement.
Voilà.
Donc, la chose qui me plaît du théâtre de Kadi et de Dominique, c'est que c'est un théâtre réaliste, un théâtre politique. Mais ce n'est pas forcément le théâtre de la rage, ce n'est pas forcément une façon d'interpréter qui veut crier, qui veut hurler, comme dans une révolte. C'est un théâtre qui dénonce, mais qui n'écrit pas, non?
Oui, c'est une autre façon de jouer. Je ne suis pas académique, je ne joue pas comme les autres, je suis autodidacte. Et en danse aussi, je danse comme je joue au théâtre, avec la même force.
Donc tu portes ta vie dans la danse, tu portes ta vie dans le théâtre.
Absolument.
Sans la crier, sans pourtant... comment dire, sans t'imposer.
Sans m'imposer, exactement, naturellement.
Et je voudrais juste ajouter ou préciser que Kadi joue de cette façon, même quand il joue quand il joue n'importe quel personnage. Enfin, c'est pas parce qu'il raconte un bout de son histoire ou un bout de l'histoire de son quartier qu'il joue comme ça. Il joue comme ça.
Donc, c'est important de dire on sent ce personnage a tutto tondo. C'est un personnage a tutto tondo en italien, ça veut dire a tutto tondo, c'est une forme de sculpture, comme un bas-relief qui prend comme un cercle. Le personnage est complet. Le personnage est complet. Et donc, c'est un personnage dans sa totalité, ça, à tutto tondo, avec ses moments de détresse, ses moments de rage, ses moments d'ardeur. C'est qui fait de toi, Kadi, un grand acteur.
C'est gentil, merci.
Je sais dire en plus, je sais dire que cette interprétation complète, comme on dit à tutto tondo, parfois on la retrouve même pas dans des acteurs qui sont connus mondialement, qui ont fait des tournées mondialement, comme certains acteurs, je sais pas, même dans le théâtre, la réalisatrice Emma Dante, che on a analysé à plusieurs reprises. Emma Dante è un grand réalisatrice, mais là, en fait, c'est un théâtre de proteste, mais c'est un proteste crié, c'est un proteste, comment dire, c'est un proteste on dirait en italien sbandierata, ça veut dire comme un drapeau, on porte ses drapeaux, on les crie, on veut l'hurler. Mais à la fin, il y a aussi des moments de magie, moments un peu intimes, mais c'est la dénonciation de la misère, de l'injustice dans la rage. Moi, je dirais que le théâtre de Kadi est la mise en scène de Dominique, le théâtre de Dominique, bien sûr, c'est un théâtre qui a d'un côté la volonté de dénonciation, de l'autre côté, c'est comme si elle fait un câlin au spectateur, c'est comme si elle accompagne les spectateurs dans cette volonté éducative, elle les prend par la main comme un enfant, elle veut lui apprendre les choses, mais sans l'insulter, sans lui crier dessus, plutôt il lui fait un câlin.
C'est joli ça.
C'est très joli.
Et c'est vrai, moi j'ai eu cette sensation.
Mais tant mieux.
Eh bien, oui.
Je préfère ça que de frapper le spectateur, c'est mieux. Et puis alors je voudrais juste préciser encore une chose, c'est qu'il y a, moi au niveau de la mise en scène ou de la direction d'acteur, il y a les acteurs et il y a Kadi. Et moi je m'adapte à sa personnalité. Et puis ça part aussi, l'histoire du spectacle part aussi d'un peu plus loin, ça part du moment où on a commencé à écrire et ce spectacle-là.
Donc vous l'avez écrit ensemble,
oui.
Le spectacle.
Oui. Et au départ, il voulait pas l'écrire en fait, mais j'ai un petit peu forcé. Enfin, je l'ai convaincu plutôt. Et une fois que je l'ai convaincu d'écrire le spectacle, il voulait pas le jouer. Donc je l'ai aussi convaincu de le jouer.
Oui. Et pourquoi je ne voulais pas le jouer? Parce que ce personnage me collait trop, il était trop près de moi. Et ma famille, moi j'ai un nom de famille qui est assez renommé, et je ne voulais pas qu'on m'associe au dealer, à tout ce que je raconte, que salir le nom de ma famille, je ne voulais pas salir ça. Et donc je refusais, je ne voulais pas le faire, parce que, voilà, parce que j'ai une famille, j'ai une grande famille, et voilà, donc j'avais peur de ça. Mais tout compte fait, j'ai bien fait de le faire, parce que bon... C'est un peu mon histoire, l'histoire de mon quartier, l'histoire de mes amis. Donc c'est bien que je la porte moi aussi.
Donc un peu comme Lino Ventura, qui a souvent refusé des rôles qu'il lui proposait parce qu'il était juste un Italien, donc il devait faire les mafieux.
Voilà, ouais.
Voilà, ouais. Il voulait dénoncer cette chose. C'est une parole qui est importante de porter une situation qu'il est important de dénoncer. Mais on ne voulait pas qu'il soit assimilé à ce personnage.
Parce qu'on vous assimile très vite ici.
Oui, ah ben oui.
C'est très facile d'assimiler quelqu'un.
Oui.
Je reprends le cheminement de la création du spectacle. Donc nous deux, moi et Kadi, par rapport à donc la création du spectacle et de la direction d'acteur, moi je suis plutôt là pour le retenir que pour le pousser. Parce que je reviens à la question que tu m'as posée tout à l'heure pour la direction d'acteur et j'essaie juste de cadrer son énergie, sa façon débridée d'interpréter, et je recadre dans ce que j'imagine être la convention du jeu du théâtre contemporain, c'est-à-dire que la convention du jeu du théâtre contemporain comme on peut l'accepter, comme le public peut l'accepter et le regarder. J'ai cadré ça et entre mon cadrage et sa façon de jouer, à mon avis, on est arrivé à un compromis qui me paraît idéal. Et puis aussi parce que je voulais absolument que ça soit lui qui interprète ce personnage, parce que je connais personne, je connais aucun acteur qui est capable de jouer ça comme ça.
Donc vous avez écrit ensemble.
Merci.
Pardon. Vous avez écrit ensemble la pièce. Vous avez vous avez écrit ensemble. Vous avez, on va dire, même joué ensemble. On peut dire ça dans la direction et dans l'interprétation. On peut dire qu'il y a une sorte de mariage artistique.
C'est joli.
C'est toujours
ça aussi,
joli.
C'est joli.
Ça aussi, c'est joli.
Le câlin, le mariage artistique.
Cali, tu voulais proposer une chanson?
Oui, je veux bien, ouais. Moi, je vous propose Police Synchrony City.
On l'écoute. Romance. Dominique, on a dit que tu fais un théâtre engagé, on a défini l'hyperréaliste, ça me fait penser au réalisme de... On a vu dans l'émission précédente Anna-Maria Ortez et Il mare non bagna Napoli. Pourquoi ça me fait penser à ça? Parce que c'est un réalisme authentique. Cet écrivain parle de Naples, elle parle dans une façon authentique en décrivant la misère, et ne l'adulcorant pas, comme tu fais. Et en même temps, elle ne flatte pas la ville de Naples qui s'est un peu rêvée partout dans le monde. En même temps, je pense aussi à une autre chose. Je pense aux critiques de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague en France, dans les années 60, elle a un peu défini la notion d'auteur. Elle a dit que les cinéastes, c'est un peu comme l'écrivain, la caméra, c'est un peu comme le stylo. Et les cinéastes parlent le langage propre au cinéma. Le langage propre au cinéma, ça veut dire un langage qui est au-delà de la littérature, et ça veut dire que c'est un langage qui a ses instruments. Et à propos de ça, à un moment, il y aura une critique à un film dans les cahiers du cinéma. Le film s'est capo de Gillo Pontecorvo. Gillo Pontecorvo è le même auteur de la bataille d'Alger, qui était censuré en France pendant plus de 40 ans. Et il y a cette critique à ce film parce qu'ils disent qu'il y a un travelling sur la protagoniste. La protagoniste, c'est une femme prisonnière dans un camp de concentration qui finit pour se suicider. Donc, au moment du suicide, il y a cette, on va dire, prise directe, ce travelling directement sur la protagoniste qui se suicide. Et cette chose enlève la drammaticité et dépourvu même la valeur politique de la scène, parce qu'en étant trop explicite, elle enlève... comment dire, elle enlève, elle parle pas le langage propre à la mise en scène, au langage du cinéma. Elle a trop vulgarisé la chose, on va dire. Par contre, dans cet hyperréalisme, qui c'est l'hyperréalisme d'Anna-Maria Ortez, c'est l'hyperréalisme de Gillo Pontecorvo, on voit que dans la scène finale de ta pièce, Combat, on se souvient che lo spettacolo s'appelle Combat, on l'a pas dit. Yeah. Non va che dalla scène finale de Combat, après cette théâtre hyperréaliste, il y a ce que la Nouvelle Vague aurait défini la puissance de la mise en scène, le langage propre. On parle du cinéma dans la Nouvelle Vague, là on parle du langage propre alla mise en scène, donc au théâtre. Et dans cet langage propre au théâtre, tu rends cet réalisme, tu donnes un sens d'indéfini, tu donnes un sens, tu donnes la possibilité au spectateur de se faire lui-même critique et réalisateur, de se faire lui-même une idée sur la pièce. En fait, on voit che dans la scène finale, il y a une lumière célestiale qui descend sur l'acteur après qu'il a commis un crime. Et il est avec une valise dans sa main. Donc, la pièce se finit dans cette façon indéfinie. Et cette façon indéfinie est qui laisse la possibilité au spectateur d'interpréter. Interpréter s'il va en prison, s'il va tuer quelqu'un, interpréter s'il va à partir de la France, on ne sait pas. Et c'est ce goût de l'indéfini, ce goût de la vacuité qui donne la magie, qui donne la libre interprétation à la pièce. Donc je trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, un réalisme qui n'a pas de rage mais qui fait un câlin. Là, tu te sers de la mise en scène et c'est vraiment magistral la façon dans laquelle tu l'as fait pour donner dans l'hyperréalisme l'indéfini, dans la dénonciation, la vacuité, la réponse, tu la laisses au spectateur. Le spectateur est libre d'interpréter. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça?
Je dis qu'en fait, c'était au départ pas franchement une volonté. C'était plutôt une impossibilité de finir, de conclure. Et cette impossibilité s'est transformée en volonté. Et on ne pouvait pas finir parce qu'on n'arrivait pas à conclure. Et on met, je dis souvent « on » parce que j'ai du mal à dire « je » pour ce spectacle. C'est vraiment un spectacle qu'on a fait ensemble, même s'il y a un acteur et un musicien sur scène et une metteur en scène en face. Je ne peux pas faire autrement que de dire « on ». Donc on met le spectateur dans le même état que nous quand on a écrit ce spectacle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure, on ne sait pas finalement ce qui se passe. On ne peut pas écrire ce qui se passe pour ce personnage qui nous raconte sa vie à un moment, à un instant T. On ne sait pas comment ça va finir. Nous-mêmes, on ne le sait pas.
Donc, par exemple, pour faire une comparaison avec le cinéma italien, je pense un peu à Fellini, à cette vacuité, à cette, cette fluidité dans le sens, dans la nostalgie, dans les souvenirs, dans les songes, dans la rêverie, c'est un peu... Même si c'est quelque chose de réaliste, d'hyper-réaliste, après cette interprétation ouverte, c'est ça, comme on dit, la cerise c'est sur ça. Le gâteau.
Oui, et c'était important pour nous de cette interprétation ouverte. Et en plus, de manière dramaturgique, enfin, dans l'écriture du spectacle, la dernière phrase de l'acteur... La dernière phase du personnage, s'il dit un jour ou l'autre, il sortirait. Quand il est dans les faits, il parle de la personne qu'il est en train d'attendre pour lui faire la peau. Et à la fin, finalement, la personne qui sort, c'est lui, c'est le personnage. Donc le dernier mot, c'est un jour, les derniers mots sont un jour ou l'autre, il sortirait et l'acteur sort. Donc voilà, je voulais que ça reste comme ça.
Donc
suspendu.
il y a une bipolarité, on va dire. D'un côté, il y a la victime, de l'autre côté, il y a le bourreau, qui à la fin sont la même personne.
Bah, c'est exactement ça. Exactement.
Les deux sont tous les deux victimes de la société. Donc, c'est là, il est laissé à la libre interprétation du spectateur. Dominique, veux-tu nous proposer une chanson?
Alors oui, je vous propose Guérenta de Swed Massi.
Et avec cet goût pour l'indéfini, on écoute cette histoire chantée par Swed Massi, qui est une chanteuse tunisienne qui nous amène dans un monde magique. Elle raconte une histoire comme une contese et qui nous berce. On va écouter Guérenta de Swed Massi.
Second.
raconter cette belle histoire de cette comtesse tunisienne, de cette comtesse tunisienne, je laisse la parole à Dominique.
Oui, alors je voudrais ajouter que le spectacle Combat est produit par La Boîte à Musique, qui est l'association dirigée par Amad Compaoré, qui est aussi le compositeur et musicien sur scène du spectacle. Et c'est un musicien de renommée internationale. Il a un studio d'enregistrement et une école de musique, de batterie, ici à la Friche Belle de Mai. Et il a grandi, lui aussi, à la Busserine.
En fait, on a parlé de la mise en scène, on a parlé de l'interprétation, mais on n'a pas parlé de la musique du spectacle. Veux-tu nous parler des choix musicaux et d'Amad, s'il te plaît ?
Donc oui, Amad et Kadi sont amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Et la couleur de la musique de Amad dans le spectacle sont les couleurs de la musique de leur adolescence.
Kadi. Ouais.
En fait, moi et Amad, on a grandi dans le même quartier, qui est la Busserine. Et en fait, Amad et moi, on a grandi dans le même quartier, à la Busserine. Et moi, je me suis dirigé vers la danse et le théâtre, et lui, vers la batterie et percussion. Et on s'est dit qu'on allait progresser chacun de son côté, et un jour ou l'autre, on ferait un spectacle ensemble. Et le spectacle, on l'a fait.
Voilà, un rêve qui s'est réalisé.
Un rêve qui s'est réalisé.
Mais vu qu'on a encore un peu de temps, vous avez fait aussi des autres travaux, Dominique et Cadino. Vous pouvez parler un peu de votre parcours artistique, au-delà du spectacle.
Tu commences ?
Vas-y, je t'en prie, commence.
Ouais, au-delà du spectacle, tu veux dire au-delà de combat ?
Des combats.
Ah ben, moi, j'ai commencé à faire du théâtre en 1979. Et j'ai commencé par le conservatoire de Marseille avec un grand monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Raffaelli. Et j'ai raté mon bac, mais j'ai eu mention très bien au conservatoire en tant que comédienne, conservatoire de Marseille. Et puis après, je suis partie, j'ai fait plein de rencontres. Je suis partie de Marseille, j'y suis revenue. J'ai travaillé avec des gens qui m'ont apporté beaucoup de choses. Je ne vais pas tous les nommer parce que ça serait trop long. Et c'est 45 ans bientôt de ce métier. Voilà, c'est 45 ans de vie et de passion avec plein de rencontres. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Surtout, en fait, ce que je voulais au départ, mais qui ne s'est jamais réalisé, c'est intégrer et participer et être partie prenante et très active dans une troupe de théâtre. C'était vraiment, pour moi, un rêve. Et j'en ai rencontré deux. J'ai cru ce rêve réalisable. Et en fait, ça a toujours capoté. Et voilà. Donc maintenant, je fais mes spectacles et avec toujours autant de passion et autant de rêves et autant d'énergie.
Bah, il ne faut pas être modeste parce que quand même, le spectacle, pour moi, est comparable à un spectacle des réalisateurs connus mondialement, comme je disais, Madante. L'interprétation aussi est très puissante, comme j'ai de suite. En fait, à la fin du spectacle, je ne connaissais pas Dominique, elle était derrière le quinte, come diciamo in italiano, derrière la scène, mais je me suis de suite adressé à Kadi pour son interprétation, pour la puissance de son interprétation. Je trouve qu'on est à un niveau très élevé de théâtre. Et j'étais étonné, comme dans un théâtre de quartier, il y avait ce niveau si élevé, c'était une découverte, c'était vraiment je suis tombé sur quelque chose de beau, de très beau. Kadi, toi, tu veux nous parler un peu de ton parcours?
Oh ouais, c'est vite fait, moi j'ai commencé à 17 ans, j'ai fait une série télévisée qui n'est jamais sortie, c'est pas grave, mais je l'ai faite quand même, j'ai été auditionné et m'ont pris. Ensuite j'ai fait de la danse avec la compagnie Nouveau Regard Jean-Pierre Rega. de la Busserine aussi, tout à la Busserine. Hein. Ensuite, j'ai travaillé avec une compagnie aussi. J'avais le rêve, comme Dominique, de continuer, de travailler avec une compagnie avec laquelle j'ai travaillé et de continuer, d'aller loin. Ils ont même eu un théâtre et de continuer à faire ce métier avec eux. Ben non, ça a foiré. Mais c'est pas grave. Je fais comme Dominique toujours ce métier avec ferveur, avec passion et amour, et je continuerai. Voilà.
Tu m'as dit que tu allais aussi en Italie faire des stages.
En Italie, je voyais, je crois que j'oublie Babette Angelvin, Elisabeth, celle qui m'a formé en danse à Aix-en-Provence, et la technique Matmatox. Et j'allais souvent en Italie, à Vicenza, faire des stages de danse avec Matmatox à Venise et avec Babette. C'était formidable. Ça, c'était une très très belle époque. Et j'oublie pas aussi Geneviève Serin, qui est chorégraphe contemporaine aussi, avec qui j'ai travaillé pendant une bonne vingtaine d'années aussi, avec qui elle m'a apporté beaucoup dans l'ouverture.
Et en fait, il faut dire que dans le spectacle, il y a bien sûr la musique d'Amand, mais il y a aussi là, des moments dans lesquels il y a la danse de Cadi, qui danse on va dire comme un oiseau qui vole avec les bras, qui vraiment très harmoniquement, on va dire comme ça. Donc voilà, c'est arrivé la fin de l'émission et je vous remercie énormément. Je remercie Dominique.
Merci
Dominique.
Beaucoup à toi, Simone.
Je remercie Cadi, merci.
Merci beaucoup à toi, Simone, aussi.
Merci, et j'espère que ce spectacle sera diffusé dans plusieurs salles, parce que c'est un spectacle qui vraiment vaut la peine voir. Tu voulais dire quelque chose, Dami?
Ah oui, justement, diffusé donc c'est le 8 novembre à la salle de la Pléiade à la Destrousse. La Destrousse, c'est une petite ville à côté de la Bouilladis, dans le pays d'Aix. Et c'est dans le cadre du festival Par les Villages, Opening Night. Et donc 8 novembre, 19h. Et pour plus de renseignements, vous cherchez sur Internet Opening Night Par les Villages. Opening Night, et vous aurez tous les renseignements et les réservations possibles.
Mais je vous assure que c'est un spectacle qui va bien au-delà du village, parce que c'est un spectacle très puissant, dans une interprétation très puissante et dans une mise en scène délicate et en même temps très engagée. Allez voir le spectacle. Je vous quitte en musique avec les morceaux 47 d'Alma Maigret, qui c'est. Alma Maigret, c'est du trip-hop napolitain des années 2000, donc ma génération. Vous étiez plutôt YouTube, Police, Dire Straits,
ah,
non?
Oui, c'est ça, oui, c'est plutôt pop funk aussi, Colin the Gang, Commodore, Earth, Wind & Fire, Phil Collins, Fleetwood Mac.
Beaucoup, on le voit aussi, on voit aussi Amand qui s'inspire de cette musique-là. Et pourquoi je mets 47 d'Alma Maigret? Parce que c'est l'histoire d'un garçon qui a grandi dans la banlieue de Naples et à un moment il est tué parce qu'il est, comme on dit en Italie, dans la malavita. Il dit le travail, je ne l'ai jamais connu, mais on dit la fatigue. Parce qu'à Naples, on dit la fatigue. Je ne l'ai jamais connu. Et il disait, moi j'avais 17 ans quand il est sorti cette chanson, et c'était un peu un mythe pour nous tous, ce mec qui avait dans la moto, il faisait les cours dans une seule roue, avec sa femme derrière, sa copine derrière, et dans la poche la main froide du pistolet. Au-delà de toute rhétorique, on va pas exalter la malavita, mais on va donner un morceau de soleil a ce garçon qui est mort, et on espère à tous les quartiers périphériques, à toutes les réalités exclues qui peuvent sortir de cette exclusion et qui peuvent aller au-delà de tout ça. On écoute 47 d'Alma Maigret.
Et merci Radio Galère.
Merci à vous.
Merci. Thank you.
Thank you.
Je vous dis à dès lundi, je remercie Sidi à la technique. Ne ratez pas les autres podcasts et surtout ne ratez pas les spectacles, c'est vraiment beau. Au revoir et merci.
Sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello e sbarbatello, sfrontatello e facciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma sì che bimbindina che ce l'ho. Marcello, son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti alla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Rabagliati e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcello,
se a mezza voce canterello qualche sciocco ritorniello, canton tutti solo quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello. Perché son bello, sono il bello di mamma.